Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous invite, pour commencer, à prendre votre Bible, très originale, dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13. Et avant de lire ce verset, quelques mots. Donc ce verset, ça va être vraiment le verset phare pour aujourd'hui. S'il y a une chose que vous devez retenir pour toute la journée même, ce message en tout cas, c'est ce verset-là. Et avant de le lire, aujourd'hui, comme ça a déjà été dit, on est le dernier dimanche de l'année 2012. Donc c'est souvent la fin d'année, l'heure des bilans, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour n'importe quel métier quasiment. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un bilan spirituel de votre année ? C'est un petit peu ce que je vais vous proposer ce matin, de faire un bilan spirituel de notre année. Et notamment, par le biais de quelque chose qui commence à être assez répandu, que ce soit dans les séries, à la télé, ou même dans la vie de tous les jours, on va faire du profiling. Est-ce que vous savez ce que c'est que du profiling ? C'est essayer un petit peu de repérer, ou de, on va dire, catégoriser, entre guillemets, les personnes. Et là, j'ai essayé de catégoriser 8 catégories. Je ne fais pas de catégorie, c'est pas grave. 8 sortes de personnes que l'on peut être chacun individuellement au culte le dimanche matin. D'accord ? Donc je vais répéter, c'est pas évident. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être 8 catégories de personnes que nous pouvons être au culte le dimanche matin. On peut être... Alors toutes ces catégories en même temps, c'est pas possible. Mais on peut être plusieurs catégories à la fois pendant le même culte ou une seule catégorie, voire aucune, puisque bien sûr, il y a d'autres catégories qui existent. Donc l'objectif de ce matin, c'est de dresser son propre bilan sur son année et de répondre à la question « Cette année au culte, j'étais comment ?» Un petit peu pour dire ce qui a, enfin, redire ce qui a été dit dans une prière tout à l'heure « Qui suis-je ?» D'accord ? Et bien évidemment, on verra tout au long du message que c'est très facile de faire croire aux autres ici présents qui on est. Je pense qu'on est tous très forts pour mentir, bluffer, être hypocrite. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est un petit moment de silence pour se poser et se dire « Seigneur, c'est entre toi et moi, ce matin et cette année, qui suis-je ou qui ai-je été au culte ?» Une mise en garde, nous, franco-français, on est très très forts pour quelque chose, c'est juger les gens, critiquer. Alors, je vous propose ce matin, c'est oublier tout ça et de vraiment faire un propre bilan personnellement, ne pas penser à son voisin, sa voisine, la personne devant, la personne derrière, et se concentrer chacun sur sa personne et son cœur, que seul Dieu peut lire complètement. Et dernier point de cette mise en garde, Galates 6, verset 7, « On ne se moque pas de Dieu ». Donc deux versets phares aujourd'hui, « On ne se moque pas de Dieu », et également le verset qu'on va lire après un petit moment de silence, donc quelques secondes pour se poser, se calmer, et on lira 2 Corinthiens 13 au verset 5. Donc quelques secondes de silence. Donc 2 Corinthiens 13 au verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Donc faites-vous vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, ce matin, que tous ensemble on puisse faire sur sa propre autocritique sur l'année et sur notre cœur, l'état de notre cœur, notamment au culte, tout au long de ces dimanches de 2012. Donc 8 catégories. Et on va commencer par la première catégorie que j'ai intitulée le warrior. Le warrior, ça veut dire guerrier en anglais, ou l'aventurier. Alors comment, qui appartient à cette catégorie ? Cette catégorie, un petit peu, c'est les personnes qui invitent des gens à l'église. Ça vous est déjà arrivé, j'espère, en 2012, d'inviter quelqu'un, un non-chrétien, à l'église. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais quand on invite des gens, ils viennent rarement, où ils viennent après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Et souvent, ce qu'on oublie, très souvent. Alors on râle forcément, Seigneur, ils viennent pas, pourquoi, hein? Mais on oublie très souvent de prier pour eux. Premier point. Et aussi on oublie que lorsque d'autres personnes invitent des gens à l'église, on est les derniers à aller les accueillir. D'accord? Et aussi on oublie quelque chose, et c'est un ami qui m'avait dit, un ami non chrétien qui était venu dans notre église dans le Nord une fois, et quand il était venu, moi j'étais sur l'estrade parce que je jouais du violon, je l'ai vu rentrer et j'ai fait purée, mais lui il a une tête d'enterrement. Et vraiment une tête, c'était mais... Tout le monde a envie de pleurer. Et c'est la première fois qu'il venait au culte, et pendant quelques semaines il n'est plus revenu, et finalement au bout de quelques mois il s'est converti, il s'est fait baptiser, et je suis allé le voir quelques temps après, je lui dis, mais la première fois que tu es venu au culte, t'avais une tête mon gars, mais je te raconte même pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu pensais? Et il m'a dit, mais je vous ai pris pour des malades. Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui nous prennent pour des fous, et bien sachez que cette folie, elle a déjà été prédite dans 1 Corinthiens. Donc nous prêchons un Christ mis en croix, les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité, et les Français à la folie. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ou Français, ou peu importe, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. La puissance et la sagesse de Dieu. Combien de fois on l'oublie ça? Saint Augustin disait, donc quelque chose de très connu, le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Comment on se représente ces personnes qui viennent pour la première fois au culte, ou qui ne sont pas chrétiennes? Est-ce qu'on les prend comme des gens qui viennent et puis bon, voilà, ils viennent, tant mieux pour eux, tant pis pour eux? Ou est-ce qu'on va les voir, leur parler? Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on les prend pour des perdus? On devrait, et pourtant, moi personnellement, j'ai beaucoup de problèmes dans ce domaine et je les prends très souvent comme des gens qui viennent et ça m'est complètement égal, alors que c'est pas du tout, mais pas du tout la bonne réaction, qu'il faut les prendre comme des perdus et être un chrétien sympathique, entre guillemets, et les accueillir. Hébreux 13, verset 1, que votre amour fraternel ne cesse de se manifester, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Donc, première catégorie, le chrétien sympathique, l'aventurier qui va au-devant des gens pour essayer de les voir, pour leur parler, et qui fait quelque chose qui est très 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 important pour une église, et puis personnellement, accueillir et l'hospitalité. Deuxième catégorie, le joueur de poker. Alors certaines personnes connaissent peut-être ce jeu, d'autres non. Alors le poker, c'est un jeu de cartes, et pour être bon à ce jeu, il faut mentir, clairement. Il faut faire croire qu'on a des cartes qu'on n'a pas, pour que les autres nous suivent et se trompent et perdent contre nous. D'accord? Donc c'est un jeu où il faut bluffer. Est-ce qu'il y a des gens qui bluffent ce matin au culte, ou qui ont bluffé plusieurs fois dans l'année? Je viens parce que mes parents me traînent, ma femme me traîne, mon mari me traîne. Je viens pour draguer, je viens pour voir quelqu'un, pour voir quelqu'une. Et en fait, au bout du compte, je viens sans être là. J'entends, mais je n'écoute pas. Si les oreilles ne sont pas ouvertes, comment le cœur peut-il être ouvert? Vous vous rappelez le deuxième verset phare de la journée, Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Et pourtant, individuellement, des fois on le fait même volontairement, et on s'auto-persuade que ce n'est pas très grave, qu'on peut mentir. On arrive tellement à mentir aux autres qu'on se dit, bah, pourquoi ne pas mentir à Dieu? 1 Chronique 29, verset 17. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Tu sondes notre cœur. Le meilleur profiler du monde, c'est Dieu, mais aussi Jésus. Et souvent, je me dis, quand Jésus il parlait à, je sais pas moi, 5000 personnes devant lui, il savait très bien qui étaient les personnes, ce qu'elles ressentaient, si elles allaient aller au paradis ou en enfer. Il savait, il voyait les gens comme il devait les voir, parce qu'il voyait leur cœur. Et pourtant, il n'a pas jugé, et il a continué à parler, comme si toutes ces personnes allaient être sauvées. Un petit rappel, comme a dit Guy tout à l'heure, on va essayer d'enfiler le costume de David, je crois que c'est ça que tu as dit, par rapport au contexte. Contexte, 1 Chronique 29, verset 17, comme quoi l'esprit conduit. Donc, David, il voulait construire le temple, comme on l'a vu tout à l'heure. Dieu lui a dit non, c'est ton fils qui le fera. Mais David, il a quand même fait une collecte, d'accord, pour les futurs travaux de son fils. Et après la collecte, il a prié. Et ça, ça fait partie de la prière. Alors, petite parenthèse, comment avons-nous été cette année par rapport à nos dons en argent vis-à-vis de l'Église? Est-ce que nous avons été honnêtes? Est-ce que nous avons bluffé? Etc. Troisième catégorie, le touriste spirituel. Alors, qu'est-ce que j'entends par le touriste spirituel? Oula, le mot d'ordre, bien sûr, l'hypocrisie, une grande spécialité de l'humain. C'est un petit peu les gens qui savent plein de choses de la Bible, qui en croient certaines, celles qui les arrangent ou celles qui ne les dérangent pas, et surtout qui n'appliquent rien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le triangle magique. Je sais, je crois, je fais. Et à chaque fois que vous entendez une étude, un message, peu importe, ou vous lisez votre Bible tous les jours, faites le triangle. Je sais, je crois, je fais. Et dites-vous, mais où j'en suis aujourd'hui dans ce triangle? Donc ces gens-là, ces touristes, qui peuvent être des habitués, ils savent, très souvent, ils croient très peu, et surtout, ils ne font quasiment rien. Et quand j'ai pensé à cette catégorie, j'ai pensé aussi aux pharisiens. Les pharisiens qui savaient tout, ils pouvaient réciter la Bible quasiment comme Jésus. Par contre, ils comprenaient, entre guillemets, mais surtout ils croyaient très peu. Et Jésus, dans les évangiles, a été extrêmement sévère avec ces pharisiens, ces hypocrites. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. À l'époque, en Judée, à l'époque de Jésus, comparer quelqu'un à une tombe, c'était la pire insulte possible. Et donc, en comparant une tombe, on aboutit à « il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu ». Parce que forcément, lorsqu'on est hypocrite, on désobéit. Une autre citation d'un curé du XVIIIe siècle, le curé d'Ars, pour ceux qui connaissent. Il y en a qui trouvent la religion ennuyeuse, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Point. Blâme. Deux solutions. Soit ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas le Saint-Esprit, soit, d'après 1 Thessaloniciens 5, ils ont éteint l'Esprit. C'est-à-dire, au fur et à mesure de leurs erreurs dans la vie, de suivre leur propre chemin au lieu de la volonté de Dieu, l'esprit s'éteint. Est-ce qu'il y a des pharisiens aujourd'hui? Et je vous rassure, cette question, je me la pose à moi en premier. Quatrième catégorie, le compromis. Alors, le compromis, il revient un petit peu dans les deux catégories précédentes. C'est celui qui va dire un petit peu, bon, il y a Dieu, il y a le diable, mais moi, je suis au milieu. D'accord? Je prends un petit peu à gauche, je prends un petit peu à droite, et je suis ma propre route. Ça, bibliquement, c'est faux, archi faux. C'est soit avec le diable, soit avec Dieu. Et souvent, les gens, quand vous leur parlez, ils disent, moi, c'est ni l'un ni l'autre, je suis ma propre volonté. Si tu suis ta propre volonté, pareil. Soit tu suis le diable, soit tu suis Dieu. C'est comme si, demain, j'allais devant l'Élysée. Et je disais, ouais, je vais voir le président, il est né en telle année, il a fait ça comme étude, il s'est marié avec telle personne, il a ça comme enfant, etc., etc. Je le connais par cœur, le président. Qu'est-ce qu'il va faire que je vais rentrer? C'est si le président, il sort et dit, mais Gavin, je te connais, toi, viens. Mais Jésus, c'est pareil. Il y a des millions de gens qui connaissent Jésus, peut-être mieux que beaucoup de chrétiens. Mais ça, au bout du compte, ça, si c'est que dans un sens, ça sert à rien. Il faut surtout que lui nous connaissent. Et ça, ça m'a fait penser à Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile qui soit. Je pense qu'on peut tous le dire et en parler avec plein d'expérience. C'est la vie la plus difficile, mais c'est la seule vie qui compte et c'est la plus belle vie qu'on peut avoir sur terre. Encore une citation, et celle-là je ne sais pas de qui elle est, mais elle n'est pas de moi. Il ne s'agit pas d'adapter le christianisme aux hommes, mais d'adapter les hommes à Christ. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure, qu'il faut être christocentrique dans notre vie de tous les jours. Cinquième catégorie, le galérien. Qu'est-ce que j'entends par galérien ? Le galérien, c'est le chrétien qui, un dimanche matin ou plusieurs dimanches matins, vient et est dans une extrême souffrance, qui peut être due à un deuil, à une épreuve, peu importe laquelle. Et souvent, on ne se rend pas compte de la souffrance dans laquelle les gens viennent tous les dimanches matins. Malgré les « salut, ça va ?»« Ah, ça va, super !» Ça, on sait tous le faire. Mais on ne se rend pas compte de la souffrance intérieure des gens. Ça peut être des épreuves, ça peut être des idoles aussi. C'est-à-dire des choses qui prennent la place de Dieu et qui nous minent intérieurement. Et qui font, comme on l'a vu tout à l'heure, tout doucement, éteindre l'esprit. Dans la Bible, il y a de nombreuses promesses de réconfort, de soutien de la part de Dieu. Et j'en ai sélectionné une. Dans 2 Corinthiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordieux et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Cette consolation, elle est double. De la part du Père, qui est le Père de toute consolation, le Père des miséricordieux, mais également, un peu plus bas, de la part de nos frères et de nos sœurs. Et souvent, les personnes qui ont le plus de tact, le plus de sagesse dans la consolation envers nous, sont les gens qui ont le plus souffert. Parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de la proximité avec Dieu et de l'importance de cette consolation que seul Dieu peut donner. Les gens du monde, nos amis, nos collègues, nos voisins, ils souffrent, c'est sûr. Et ils cherchent leur consolation dans des choses inutiles et corruptibles, qui se perdent, qui se fanent tôt ou tard. Et pour ces personnes qui souffrent, qui se sentent souvent seules, abandonnées, une citation, « Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. Qu'il soit seul contre 1 milliard, s'il a Dieu de son côté, il a la majorité absolue. » Et une petite image. Vous voyez, le chrétien ami de Dieu en bas, la personne ou la chose, l'événement qui l'embête, et Dieu qui arrive. Donc on n'oublie pas qui nous sommes, mais surtout qui est Dieu pour nous. Sixième catégorie, le cycliste. Alors, petite histoire, il y a quelques années, on est parti à La Plagne pour voir une arrivée du Tour de France. Et avec mon petit frère, on avait 15 ans, ouais, à peu près 15 ans et 13 ans, on faisait un peu les malins, on a loué des vélos, et on s'est dit, on va faire la montée de La Plagne, comme les grands sportifs vont faire le lendemain. Donc on prend des vélos qui n'étaient pas terribles, mais on les prend quand même. Et on s'est arrêté à peu près 800 mètres avant l'arrivée. 800 mètres par rapport à 20 km, c'est énorme. On a commencé à pédaler, et au bout de 15 secondes, j'ai fait purée, mais j'avance plus. Alors que j'avais l'habitude de faire du sport, j'avais l'habitude, mais là, ça montait tellement, pour nous en tout cas, on s'est dit, mais on n'est rien. Et là, j'essayais quand même de monter, et j'ai dû poser le pied, abandonner lâchement, mais ça fait du bien. Le cycliste. Il y a peut-être des gens ce matin, ou cette année, qui sont venus au culte et qui se remettaient tout doucement d'une épreuve. Donc j'appelle ça le chrétien qui remonte la pente. N'oublions jamais que le diable connaît nos points faibles. D'accord ? Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle puisqu'il faut faire confiance à Dieu. Et aussi, il appuie souvent sur le point très sensible que je pense qu'on a tous, c'est l'échec. Avez-vous peur de l'échec ? Est-ce qu'on a peur de l'échec ? Il y a quelques années, un ami a fait un entretien pour un travail, et la psychologue lui a demandé « Monsieur, est-ce que vous avez peur de l'échec ?» Et juste à l'entretien, à la fin de l'entretien, il était fatigué. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que moi j'aurais répondu si on m'a dit ça ?» Et l'ami a très bien répondu, d'ailleurs il a été pris. Il a dit « Alors j'ai pas peur de l'échec, mais ce dont j'ai peur, c'est de ne pas me relever après l'échec. » Je dis, tu aurais dû être philosophe. Magnifique la phrase. N'oublions pas que malgré les échecs, malgré les chutes, on peut se relever, mais c'est Dieu qui nous relève. Et souvent, on s'auto-perçoit que c'est nous qui nous relevons et on prend toute la gloire de Dieu et on devient orgueilleux. Un verset, n'abandonnez pas votre assurance, une grande espérance lui appartient. C'est un petit peu comme Guy t'a dit tout à l'heure, le train du salut. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis, Jean 3,16, la vie éternelle. Si un jour, ou cette semaine, ou dans l'année à venir, vous avez des moments de faiblesse, des moments de doute, prenez Hébreux 11, d'accord ? Où Paul, il rappelle des exemples ou de vie de la part de certains chrétiens, et notamment les patriarches de l'Ancien Testament, et il y a trois mots qui reviennent très souvent, c'est « par la foi ». Par la foi, Abraham. Par la foi, Maxime. Par la foi, Guy, etc., etc. Qu'on n'oublie pas que c'est par la foi qu'on peut faire tout ça et que toute la gloire revient à Dieu. Septième catégorie, j'ai appelé ça le zen. J'ai hésité aussi avec le jamaïcain. Cool. Quelqu'un d'heureux. Est-ce qu'on a été heureux au culte cette année ou ce matin? Mais quelle joie! Il y a plusieurs joies qu'on peut avoir. La joie d'avoir réussi un concours, la joie d'avoir une famille, la joie d'être amoureux, etc. Là, on parle de la vraie joie, c'est-à-dire la joie que seul Dieu peut nous donner. La joie durable et la joie véritable. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Est-ce qu'on a mis sa joie en l'Éternel cette année ? Peut-être, des fois, oui, non. Attention à ce que le monde nous propose par rapport à cette joie. Il va nous proposer des milliards de choses, qu'on peut appeler des idoles, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça revient un petit peu au message de François il y a quelques semaines. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et aussi faire attention à un ami qui m'a dit ça il y a quelques années, et ça m'a beaucoup marqué. Il a parlé d'une catholicisation des protestants. Qu'est-ce que ça veut dire, une catholicisation des protestants? Eh bien, c'est le fait de tout doucement commencer à un petit peu filtrer la Bible, dire ça, ça ne s'applique pas, ça ne s'applique plus, et devenir comme, un peu comme les catholiques, c'est-à-dire la Bible. On la met de côté et on suit les écrits de l'homme. Et lorsqu'on se dit, ce verset-là, ce n'est pas important, je le laisse de côté, c'est exactement ce qu'on fait. On suit ses propres écrits, c'est-à-dire des mauvais écrits. Le chrétien tiède, on peut l'appeler. Et ça, c'est le danger de la joie. Surtout quand on est dans la mauvaise joie. Et à l'heure actuelle, un fléau qui arrive souvent, c'est la joie du sentiment. Je suis amoureux, je suis trop bien. Dieu a créé le sentiment, il y a des très bonnes raisons, et c'est magnifique. Mais trop souvent, et notamment parmi les jeunes, on prend ce sentiment et on s'enflamme, et on fait des erreurs qu'on regrette. Et n'oubliez jamais que le senti ment. D'accord ? Ça peut être un moyen, ça peut aider. Et huitième et dernière catégorie, le marathonien. Dans les forces spéciales françaises, la crème de la crème sont les nageurs de combat qui sont basés à Saint-Mandry, à côté de Toulon. Et la formation de ces nageurs de combat, elle dure 7 mois. Et n'importe quand durant ces 7 mois, les gens peuvent être expulsés. Les gens qui arrivent sont tous, à part quelques exceptions, mais c'est très rare, sont tous des commandos. Donc des gens aguerris, solides. Et pourtant, chaque année, il y en a 3 ou 4 qui réussissent. Et durant ces 7 mois, ils vont apprendre à souffrir, à galérer, à vivre des choses intenses. Mais surtout, ils vont apprendre à être bougés, à être insultés par des instructeurs. Et j'ai lu un jour un texte d'un des instructeurs qui disait que ça dure 7 mois, d'accord ? Et au bout d'une semaine, il faisait 4 catégories de personnes. Il faisait les sympas, qui ne réussiraient pas, les roublards, les petits rigolos, qui font croire qu'ils sont forts, ils arrêteront avant la fin, les durs, à eux les durs, ils terminent rarement, Et l'idée de la quatrième catégorie, c'est ceux qu'on veut, ce sont les marathoniens. C'est ceux qui ne vont pas faire de bruit, mais qui vont être fidèles au jour le jour, et eux, ils vont réussir. Et Dieu, c'est ça ce qu'il cherche. Il ne cherche pas des durs, il ne cherche pas des rigolos, il cherche des marathoniens. Et ce marathon que Dieu nous propose, il y a un mot-clé dans la Bible qui s'appelle la sanctification. Plusieurs versets à ce sujet. Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la rendra parfaite le jour du Seigneur. » Ce qu'il a commencé, il la rendra parfaite. C'est un processus. Un processus quotidien qui passe par deux éléments. Et je vais vous citer encore deux dernières citations, enfin trois, il y en a encore une dernière après. Donc la première, une vie chrétienne est une conversion de chaque jour. La repentance. Si vous passez une journée sans vous repentir, alors peut-être vous êtes un super chrétien, venez me voir, vous me dites comment vous faites. Sinon c'est qu'il y a un problème. Donc premier mot, donc la repentance. Et deuxième citation, avec le mot témoignage. Et c'est ce dont on parlait avec Cathy à l'étude biblique. Prêchez l'évangile à tout instant, et au besoin, servez-vous de mots. D'accord ? Comme quoi l'attitude est souvent pas plus importante, peut-être pas, mais peut être une meilleure amorce au témoignage avec des mots. Et une dernière citation avant de conclure, c'est un texte de Neil Cole, donc peut-être certains le connaissent, c'est l'auteur de Une Bible, un café, un disciple, par rapport au groupe de croissance. Je vais vous lire ce qu'il dit par rapport à ce marathon, ce processus de sanctification qui est proposé par Dieu. Le salut ne se limite pas à une simple assurance incendie ou à une place réservée au ciel. Le salut, c'est une vie transformée. C'est un cheminement. Le renouvellement intérieur est un processus que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Chaque année qui passe, nous devrions ressembler un peu plus à Christ et notre vie devrait davantage refléter sa grâce et sa vérité. Chaque année qui passe, fin 2012, nous devrions ressembler un peu plus à Christ et notre vie devrait davantage refléter sa grâce et sa vérité. Ne pas oublier que malgré nos chutes, on a chuté, on est tombé en 2012. Désolé, mais on chutera, on tombera en 2013. Mais ne pas oublier qu'on a une béquille qui est toujours là, solide, inébranlable. C'est Dieu. Conclusion. Vous vous rappelez ces huit catégories, à peu près ? Il y a un lien précis entre ces huit catégories. Alors, regardez. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis absolument pas, mais alors, absolument pas artiste. Ce que je vais vous montrer là, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est impossible. Je l'ai vu et je l'ai refait. Vous vous rappelez, première catégorie, le warrior, l'aventurier. Ensuite, le joueur de poker, le touriste spirituel, le compromis, le galérien, le cycliste, le zen, le marathonien. Qu'est-ce qu'il dit, ces personnes ? La croix. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'accomplir des choses, mais c'est d'être quelqu'un par l'œuvre du Christ en nous. Jésus frappe tous les jours, sans doute, à notre porte pour qu'on s'améliore ou pour qu'on vienne à lui pour la première fois. La poignée, elle est que de notre côté. D'accord ? C'est un choix délibéré pour nous. Lui, il frappe la poignée de notre côté et c'est à nous d'ouvrir. Une bonne relation avec Dieu implique une nouvelle réaction face au péché et également une bonne relation par rapport à ses commandements. Donc bilan pour cette nouvelle année qui arrive. Comment avons-nous été au culte dans notre culte personnel? Je pense qu'on a tous plein de choses à améliorer, des choses à changer, à éradiquer. Et il y a deux possibilités. Ne pas dire « je suis » du verbe « suivre », « Jésus pour », mais « je suis Jésus même si ». Ce qui sont deux choses complètement différentes et qui impliquent des choses encore plus différentes. Pour devenir un petit peu ce que dit le dessin, un chrétien conquérant. Mais un chrétien conquérant, pas grâce à nous, mais grâce à Dieu. Et ce matin, il y a deux possibilités. Soit nous sommes des cœurs brisés, c'est-à-dire des gens qui se rendent compte de leurs manquements, de leurs faiblesses, et qui demandent à Dieu de l'aide. Repentance, témoignage, on est bien parti pour faire le marathon de Dieu. Soit nous sommes des coups raides, c'est-à-dire des durs. On rappelle l'anecdote d'un nageur de combat. Moi, je suis un dur, je suis un fort, je vais y arriver. Mais là, c'est pas bon comme réaction. Je vous invite à prendre un dernier texte dans Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Et les 6 premiers mots résument ce que nous devrions être, penser, avoir pour l'année 2013. Donc, Hébreux, chapitre 12 et au verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. Sanctification. Qui nous a ouvert le chemin, conversion, et qui le mène à la perfection, c'est-à-dire au salut. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. On ne se rend pas toujours compte que la mort sur la croix, c'était la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un, à un criminel, il y a 2000 ans. Et Dieu l'a fait, et comme on l'a vu tout à l'heure, un des premiers passages, cette croix, cette mort, en fait, ça révèle la puissance, la gloire et l'humilité de Jésus. Je vous invite à avoir quelques moments de silence pour se poser, réfléchir à ce qui était dit. Et pour terminer, je citerai un passage d'un missionnaire martyr qui est mort en Équateur. C'est une histoire un peu connue. Ils sont allés évangéliser des Indiens en Équateur, dans la jungle. Ils étaient 5, et les 5 se sont fait tuer. Et ensuite, ce sont la plupart de leurs femmes ou leurs enfants qui sont venus. Et des années après, il y a eu un véritable ministère béni, et ils se sont convertis. Et donc, un des 5, je vous lirai donc à la fin de ce moment de recueillement, ce qu'il a dit par rapport à la gloire de Dieu. Et surtout, ça peut vraiment être quelque chose d'essentiel pour notre année à venir, c'est-à-dire l'année 2013. Donc quelques moments de silence, et puis je lirai ça pour terminer. Donc, citation de Jim Elliot. Ô homme, que dois-tu donc faire, toi qui cherches ta propre gloire, chaque fois que tu fais quelque chose de bien, et qui trouves le moyen de faire des reproches à Dieu lorsque tu fais quelque chose de mal? Regarde-toi, tu es une créature, reconnais le Créateur. Tu es un esclave, ne méprise pas le Maître. Tu as été adopté, mais non sur la base de tes mérites. Cherche la gloire de celui que tu as reçu, de qui tu as reçu cette grâce, ô enfant adopté. Cherche la gloire de celui dont le seul Fils unique engendré a cherché la gloire. Donc ça revient à Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus pour cette fin d'année 2012 et pour toutes les années à venir et d'abord l'année 2013. Amen.